Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou présenté par Mustapha Mamansani de la radio Gaskia de Zender. Vous recevez ce forum par le canal de 47 radios partenaires à travers le Niger. Aujourd'hui, le thème de notre forum portera sur redevance minière, impact sur le développement local et perspectives. Au Niger, les régions concernées par l'exploitation et la transformation des ressources naturelles du sous-sol sont appuyées dans les recettes qui y découlent pour leur permettre d'atténuer les effets de cette activité en appuyant le développement local. Cela est encadré par la Constitution en son article 152, la loi numéro 2017-63, la loi numéro 2014-11 et le décret 2015-245. Selon ces textes juridiques précités, 15% des ressources générées par l'exploitation sont rétrocédées aux collectivités territoriales des zones concernées. Il s'agit des régions d'Agadez pour l'exploitation de l'uranium, la région de Diffa pour l'exploitation pétrolière, la région de Zender pour l'activité du raffinage du pétrole et Tillabéri pour l'exploitation de l'or. Selon le rapport d'enquête de 2019 du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, le transfert des 15% des redevances minières et pétrolières n'est pas constant et en grande partie inefficace aux communes des régions concernées. Selon ce même rapport, les collectivités d'Agadez totalisent 5 années d'arriérés. Celle de Diffa 3, celle de Zender n'ont bénéficié que la rétrocession des 15% de la taxe intérieure sur les produits pétroliers TIPP qu'une seule fois alors que la loi numéro 2014-11 lui donne le droit depuis 2014, ce qui nous amène à nous poser les questions suivantes. Comment se fait sa répartition et dans quels secteurs sont-elles dépensées? Quels sont les impacts sur le bien-être des populations des communes bénéficiaires? Quels sont les défis et perspectives en matière de gestion de ces ressources? Pour débattre sur ces thèmes, nos invités sont M. Cheb Outouzoukou, secrétaire général du Conseil régional de Zender, M. Sani Salos, spécialiste de la décentralisation à l'Institut universitaire de technologie de Zender, et Mme Hadiza Hima, coordonnatrice régionale du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB Zender. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, ce soir nous parlons de redevance minière, impact sur le développement local et perspective. Monsieur Touzoukou, nous commençons par vous. Qu'est-ce que la redevance minière et quels sont les objectifs assignés à travers son octroi?
Merci Monsieur Mamansani de nous avoir donné l'occasion quand même de nous exprimer par rapport à cette thématique très importante. D'abord, pour parler de la taxe, je voudrais juste préciser qu'en ce qui concerne la région des Zender, il s'agit de la TIPP, taxe sur le produit pétrolier. C'est différent de la redevance, comme nous avons communément l'habitude de dire redevance. Certes, c'est vrai, c'est des ressources, on peut les appeler ainsi, mais dans le cas spécifique des Zender, Zender reçoit la TIPP, c'est-à-dire donc c'est sur les activités déjà de produits raffinés. Le prélèvement de cette taxe, elle est faite à la pompe, à la vente. Bon, la redevance minière, si vous voulez, c'est des ressources qui sont exploitées dans le sous-sol et que l'État, qui est les garants, si vous voulez, de l'indépendance même de nos ressources, octroie une certaine partie donc aux collectivités territoriales qui concourent en même temps que lui au développement socio-économique et culturel.
Des populations.
Mm-hmm. La spécificité, c'est que les régions maintenant prennent en charge les subsidiarités, c'est-à-dire le développement économique, social, local.
Hadiza Hima, est-ce que ces sommes sont transférées régulièrement aux collectivités territoriales des zones concernées?
Merci Maman Sani de m'avoir invité sur ce plateau débattre par rapport à cette thématique. Il y a des aéries partout au Niger, partout où il y a les trucs, il y a les redevances. Je dis que les paiements ne sont pas à jour. Et à part les aérés, elles ne sont même pas totalement versées aux communes.
Au stade actuel, Maman Sani, pensez-vous que les collectivités territoriales disposent des compétences pour propulser le développement avec les sommes perçues?
Merci d'abord à vous, Maman Sani, et d'avoir mis sur table une question assez pertinente, celle de la question de la redevance pétrolière qui est rétrocédée aux collectivités territoriales. Et il faudrait préciser que en réalité, c'est 15% seulement qui sont rétrocédées aux collectivités territoriales. Mmh. En d'autres termes, 85% de cette ressource, de cette recette-là, reste entre les mains de l'État.
C'est ça.
Et donc, c'est une infime partie qui sont rétrocédées à nos collectivités territoriales. Et la prise en charge ou comment les collectivités vont s'en prendre pour véritablement impulser le développement, c'est une question très pertinente. Mmh. Parce que tout simplement, nos collectivités territoriales aujourd'hui sont décriées. Deux mandats successifs qui se sont déroulés et les résultats sont assez mitigés. Le fait que ces résultats soient mitigés, d'abord, il y a une étude évaluative qui a été menée par des experts sous l'égide du ministère de l'Intérieur qui a fait ressortir beaucoup de dysfonctionnements et où 63 des communes de la République du Niger sont totalement invivables. Cela veut dire que ces communes ne sont pas viables. Dans le cadre de la réforme administrative, dans le contexte normal, ces collectivités territoriales allaient disparaître et rattachées à d'autres communes beaucoup plus viables. Est-ce que nos communes sont à même d'impulser le développement? Il faudrait d'abord situer le contexte dans lequel nous sommes, le contexte dans lequel évoluent ces collectivités. Si je vais de manière assez sommaire, hein, quand vous regardez, c'est d'abord nos collectivités ne disposent pas de personnel propre. Et la majeure partie des animateurs en termes de services sont des services déconcentrés de l'État qui appuient les collectivités territoriales. Or, il est dit dans les dispositions réglementaires que, logiquement, c'est une convention qui doit lier la collectivité territoriale et les services déconcentrés de l'État. La mise en application de cette convention type, pour le moment, n'est pas effective. Premier aspect, deuxième aspect, les services communaux propres de nos municipalités ne disposent pas de personnel suffisant en termes de nombre, mais également un personnel en termes de qualification. Parce que si vous prenez l'exemple de la ville de Zender, en 2016, la ville disposait d'un personnel de 116 agents, 4 agents Bac plus 4, tous les autres sont des agents de cadre moyen. Et ma foi, la reconfiguration de l'organigramme de la municipalité était difficile à être élaborée parce qu'on voulait créer des directions, mais la municipalité était confrontée au problème de personnel en termes de qualification.
Ça, c'est même la ville de Zender à plus forte
raison. C'est juste l'exemple de la ville de Zender. Imaginez un peu les communes rurales qui sont pratiquement dépourvues de SG, de SM, de receveurs municipaux, etc., etc. La municipalité, son fonctionnement se résume dans beaucoup de cas. Dans le milieu rural, se résume à l'exécutif, le maire le plus souvent, et le service d'état civil qui est fonctionnel. Mis à part les jours de marché ou le receveur municipal qui est intercommunal parce que souvent il joue le rôle de receveur entre 3 ou 4 municipalités. Et là, c'est un sérieux problème et vous voyez un peu en termes de fonctionnement administratif, c'est un sérieux handicap pour nos municipalités pour leur permettre de véritablement prendre en charge la question de développement à la base.
C'est ça. Monsieur le SG, quelle est la clé de répartition de ces sommes?
Ok, donc ces ressources sont effectivement orientées sous, vous voulez, leur répartition sont réglementées. C'est réglementé par le décret 2015-245, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé dans votre introduction. Donc, il s'agissait de prendre en compte un certain nombre de critères. Les critères sont, entre autres, le poids démographique, qui octroie 25%. Il y a l'impact environnemental, qui octroie aussi 25%. Il y a l'effort de mobilisation des ressources locales propres qui octroie 15%, c'est-à-dire l'effort dans la mobilisation des ressources que la collectivité elle-même a eu à faire dans ses recettes, si vous voulez, ordinaires. Et il y a maintenant les niveaux de sous-équipement aussi qui comptent pour 25%. Donc c'est ces taux-là qui sont alloués pour calculer et dégager la part.
C'est ça. Addis Zahima, les actions ayant dans le sens de la restauration de l'environnement sont-elles sensibles dans les activités menées avec les fonds rétrocédés?
À ce niveau, je vais dire que les fonds rétrocédés ne permettent pas de faire des restaurations de terres. On ne fait pas de restauration de terres avec ces fonds. Normalement, il y a les créations de fonds séquestres. C'est avec ces fonds-là, normalement, on fait la restauration des terres. Et ces fonds-là, c'est l'entreprise même qui met ça à la disposition de l'État ou bien c'est à l'entreprise. Parce que l'activité s'est faite au fur et à mesure, ils font la restauration des terres. Et c'est pas dans les fonds rétrocédés qu'on fait les restaurations.
D'accord. Monsieur Sallaou, est-ce que la loi minière ou le code pétrolier a prévu un mécanisme de contrôle de la liquidation de ces montants?
Et bien entendu, et la liquidation de ces fonds qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales sont bien encadrées. Le camarade SG a déjà évoqué que la loi de 2015, qui fait une certaine répartition en termes de proportionnalité, et s'agissant de cette clé de répartition-là. Mm-hmm. Maintenant, en termes de développement même, il est totalement dit dans les dispositions que une part importante, 85%, doivent être alliés aux investissements de la collectivité. Or, les investissements sont généralement inscrits dans le plan de développement communal de la commune. Et si le plan de développement communal n'est pas réactualisé, il faudrait le réactualiser. Au préalable, hein, la commune doit d'abord revoir même son budget. Parce que là, c'est une recette, entre guillemets, extraordinaire. S'il savait que la commune ne l'a pas, n'a pas inscrit dans le budget, il faut ouvrir une ligne budgétaire, apporter un remaniement budgétaire du budget de la commune pour que les conseillers sachent combien la commune a reçu et quelles seraient les allocations qui seraient faites par rapport à cette ressource qui est mobilisée ou qui vient de tomber de la PAC de l'État. Donc, dans le plan de développement communal, logiquement, les grandes lignes des investissements sont déjà dressés. Et généralement, ce sont les questions afférentes aux services sociaux de base, à savoir ce qui sont les compétences d'ailleurs transférées aux collectivités en vertu du décret de 2016, les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé, les secteurs de l'environnement et la question de l'hydraulique ou l'approvisionnement en eau. Principalement, ce sont ces secteurs à qui on doit allouer 85% des investissements. Les 10% doivent aller dans le cadre du fonctionnement de la municipalité. Le fonctionnement de la municipalité sous-entend les dépenses récurrentes en termes de carburant, en termes de fonctionnement des services, de la mairie, etc. etc. Les 5% doivent aller dans le sens d'appuyer les services techniques déconcentrés de l'État, comme nous l'avons dit, qui accompagnent la municipalité dans la mise en œuvre des activités qu'elle a prévues, mais également dans le suivi et évaluation des activités auxquelles la municipalité a mené à réaliser avec ses ressources qui lui sont allouées par l'État. Donc voilà un peu l'encadrement du dispositif, comment il est organisé. Et pour ce faire, bien entendu, donc le conseil municipal a le devoir de suivre à la règle toutes les dépenses qui seront faites, les activités qui seront réalisées. Et les associations communautaires de base, les OSP, la société civile doit être un instrument d'éveil pour également s'assurer que les réalisations sont conformes aux aspirations de la population. L'État également y veille à ce que ces ressources publiques doivent être dépensées dans les conditions les meilleures. Il y a le principe de la comptabilité, ce qu'on appelle la reddition des comptes, de telle sorte que les autorités municipales ont l'obligation de manière permanente à informer la population par rapport aux dépenses afférentes, par rapport aux activités, par rapport d'abord au niveau de mise en œuvre des activités, par rapport à la finalisation, à la réception des ouvrages qui ont été réalisés dans le cadre de l'investissement qui est fait avec ces ressources-là.
C'est ça. Alors, je vous propose d'écouter ensemble le maire de la commune rurale de Wolelewa, la commune dans laquelle est installée la Soraz, une des communes qui a bénéficié également de la TIPP. Le maire Maman Manou nous explique comment ils ont dépensé les montants reçu dans le cadre donc de cette rétrocession.
Nous avons affecté à l'éducation nationale 698 millions, à la santé 698 millions, à l'hydraulique 698 millions, donc ça fait 20% pour chaque secteur social de base. Maintenant, le reste entre élevage, agriculture et l'environnement, jusqu'à 35%. Les 5% qui restent, c'est pour le fonctionnement. Le fonctionnement, pas des services communaux, mais le suivi de toutes ces activités de construction, d'installation, des infrastructures que nous sommes en train de faire. Parce que tous les agents de génie rural, aussi bien à Zander qu'à Tante, tous les agents de l'hydraulique, aussi bien à Zander qu'à Tante, sont sur le chantier. Ils suivent au jour le jour. Donc leur fonctionnement, etc., etc. Nous avons construit et équipé 56 nouvelles classes. Sur les 56, 50 sont déjà terminées et les 6 sont en voie de finition. Nous avons réhabilité et équipé 25 autres classes. On a acheté 625 tables bancs, 25 armoires, 25 tables de maître, etc. pour mettre dans ces écoles. 6 ambulances, 4 motos et 6 CSI transformés. Et en plus, nous avons équipé les CSI construits là, des produits de première nécessité. Donc ils sont équipés avec des lits, des matelas, même des produits pharmaceutiques.
Monsieur le SG, quel commentaire vous suscite cette répartition?
Bon, vraiment, le commentaire que j'ai par rapport effectivement à la réaction de monsieur le maire, je ne peux dire que d'abord, c'est des actions salutaires qui rentrent en tout cas dans le cadre de l'utilisation de ce fonds. Parce qu'il est bien dit que ce fonds, c'est pour contribuer au développement économique, social. Et toutes les actions qu'il vient de citer rentrent effectivement dans le cadre du développement, en tout cas des relèvements de la vie sociale, donc de la personne humaine, donc de la population de sa localité. J'espère qu'en tout cas, c'est vraiment, il a mis les ressources dans la ligne où il faudrait les mettre.
Que pensez-vous, Maman Sani, de cette répartition?
Je pense que, à s'en tenir au discours du maire de Walalewa, je pense que des investissements sont réalisés. Toutefois, il faut que nous soyons assez prudents par rapport à la question des investissements, mais également des fonctionnements. Cette dimension d'investissement, souvent il y a des activités qui sont réalisées par nos municipalités, tendant à faire croire qu'il s'agit des investissements, mais en réalité, ce sont des activités qui s'apparentent beaucoup plus à des activités ponctuelles, donc à des dépenses de fonctionnement. Quand le maire, par exemple, dit qu'ils ont réhabilité, la réhabilitation, ce n'est pas un investissement. Une route existe déjà et que vous la réhabilitez, vous colmatez, vous n'avez pas véritablement investi. Parce qu'à la longue, à court terme, déjà, la route, l'état de la route sera encore dégradé. Donc, vraiment, il y a une nuance nette entre les investissements qui sont des réalisations qui s'inscrivent dans la durabilité. Plusieurs années après ces investissements, on constate les effets ou les impacts de ces investissements. La construction des classes, à la longue, en termes d'approche sur la gestion axée sur les résultats, après la construction, 15 ans après la construction des classes, vous avez les fruits qui sont là, les élèves, ils ont créé une famille, etc. C'est ça les investissements. Mais les actions ponctuelles ne sont pas des investissements. Donc je pense qu'il doit beaucoup plus mettre l'accent sur ces réalisations à long terme pour promouvoir le développement et se limiter vraiment aux 10% pour les actions ponctuelles qui sont les actions plus de fonctionnement. La réhabilitation, la dotation en fourniture, etc. sont plus ou moins liées dans le cadre des dépenses de fonctionnement. Les investissements doivent être vraiment des gestes de la création des ouvrages, la construction des ouvrages collectifs, et les pérennisations. Parce qu'une chose est de les créer, une autre chose est de les maintenir en fonctionnement et une autre chose de les rendre opérationnels dans la durée. Donc moi, je pense que les autorités municipales ont ces devoirs parce qu'elles peuvent, avec les services des inspecteurs d'État, cela peut les créer des difficultés de se justifier. Parce que trop souvent aussi, la question des passations des marchés va s'inviter dans le débat. Parce que quand on parle des investissements, c'est des sommes assez importantes qui sont dégagées pour faire des ouvrages. Alors, souvent dans la réalisation des ouvrages, la question des passations des marchés, on donne des marchés de gré à gré. Du coup, l'ouvrage est réalisé, mais à long terme ou à court terme d'abord, on se rend compte qu'en fait, c'est un éléphant en banco et ça tombe, vous voyez. Et donc, c'est à ce niveau-là que vraiment que les municipalités ont besoin d'un accompagnement des services techniques de santé de l'État.
C'est ça. Hadi Zahima, quel est l'impact réel de ces rétrocessions sur le développement des zones concernées?
L'impact, on peut dire que l'impact, il est réel. Par exemple, si on prend le cas du Walalewa, dans d'autres communes, c'est une réussite. Et dans d'autres communes, vraiment, c'est de la catastrophe. Si réellement, de point de vue théorique, la répartition, elle est bonne. Mais dans les pratiques, c'est ça qu'il faut revoir. Par exemple, si on prend, comme je l'avais dit, Walalewa, ce qu'on vient d'écouter, le discours du maire de Walalewa, ce qu'il avait expliqué, si réellement, vraiment c'est ça, on peut dire que l'impact est positif. Parce qu'une commune qui n'arrive même pas à prendre en charge ses personnels, aujourd'hui qui arrive à faire des investissements dans beaucoup de domaines pour le bien-être de sa population, je pense que c'est un coup de chapeau. C'est vraiment une avancée.
C'est ça. Monsieur le SG, quelles sont les raisons qui peuvent justifier ces sauts de paiement?
Bon, les sauts de paiement, ça nous ne serons pas capables de vous dire les raisons parce que nous sommes au combat, pour que vraiment ces sauts-là n'y aient plus. Nous voulons que vraiment qu'on soit alignés, que chaque année, qu'on ait ses ressources, pour pouvoir et d'ailleurs éviter de remanier, comme l'a si bien rappelé. Voyez-vous maintenant, c'est cette tranche qui vient d'arriver, c'est la tranche de 2015. Et elle est venue tout récemment. Et ça a de facto mobilisé, si vous voulez, mettre en mouvement les collectivités pour concourir au remaniement budgétaire. Et voyez-vous, nous sommes en fin d'année déjà. ils vont remanier, ils vont prendre les recettes en charge et faire les répartitions des dépenses conséquemment. Mais la réalisation maintenant de ces activités serait certainement impactée sur l'année N plus 1. Voyez-vous. Donc vraiment, et nous, notre cri de cœur est que vraiment chaque année N, que vraiment la région des Andes puisse s'en sortir avec son enveloppe et vraiment à l'année.
Mais ce sont toutes les régions du Niger malheureusement qui sont concernées et malgré le lobbying mené par les députés nationaux, on voit qu'il y a toujours ce retard qui persiste.
Bon, j'avoue que c'est vrai, mais nous ne connaissons que la réalité des Andes. Nous savons combien de fois le combat que nous avons mené pour que ces choses-là commencent à venir. Dieu merci, ça a commencé à venir. L'année passée, on a reçu 2014, cette année 2015 est arrivée. Peut-être l'année, avant même la fin d'année, 2016 va venir, 2017 va venir, pour rapidement rattraper, si vous voulez, les retards. Vraiment, ça, c'est notre souhait de tous les jours, c'est notre prière de tous les jours, que nous puissions vraiment être sur la ligne pour vraiment booster le développement qui est une de nos missions, nous, les collectivités territoriales. Parce qu'on ne peut même pas, en tout cas, donner, si vous voulez, et booster le développement sans pour autant qu'on ait vraiment suffisamment de ressources. Et tout le monde connaît aujourd'hui la réalité des ressources que mobilisent les collectivités territoriales. C'est les taxes de voirie, c'est les taxes municipales qui sont aujourd'hui, tout le monde le sait, difficilement recouvrables. Les taxes de marché aujourd'hui, vous voyez, partez dans les communes, vous allez voir comment les communes là arrivent à joindre le deux bout pour même payer les salaires de leur personnel. Donc si encore cette manne arrive, au moins celle-ci-là, elle est cadrée. Elle est bien cadrée, donc de 85%, nous sommes obligés de les investir. Donc vraiment, nous serons vus par cette population-là. Et on va créer une sorte de confiance entre nous et la population parce qu'elle nous voit venir, elle voit les collectivités venir et elles seront obligées d'emboîter le pas en payant leurs impôts et taxes parce que notre chanson toujours que la population, si tu veux, les citoyens disent « qu'est-ce que la mairie m'a fait ?» et la mairie de son côté dit « qu'est-ce que lui, le citoyen, est-ce qu'il a payé ses impôts ou est-ce qu'il a payé ses taxes ?» Donc moi, je pense que ces ressources-là exceptionnelles, si l'État vraiment les met à la disposition de ces collectivités, va permettre à ces collectivités-là ou à nous, collectivités territoriales, de nous racheter en partant avec force vers cette population, je vais dire, en investissant. Ils vont donc, nous avons de quoi vraiment à leur montrer et à leur expliquer que ça provient de telles ressources. Et si vous donnez les vôtres là, ce serait plus
important. Voilà. Maman Sani, même question. Pourquoi, malgré le lobbying des députés nationaux des différentes régions concernées, le paiement de ces montants accuse des arriérés?
Vous savez, avec cette question de politique publique en termes de décentralisation, on a l'impression, c'est un peu partout malheureusement, qu'en Afrique, l'État n'est pas prêt à lâcher du lest. L'État traîne les pas quand il s'agit pour l'État de conférer à ses collectivités territoriales l'intégralité des compétences qui leur sont dévolues, mais également de mettre à leur disposition les ressources, concomitamment on a l'habitude de dire, les ressources humaines, matérielles, humaines à la disposition de ces municipalités. Je pense que cela entre dans cette logique. L'État traîne les pas là, pour décaisser les fonds. Peut-être ça peut être à des niveaux. Et peut-être que les compagnies pétrolières n'ont pas pu décaisser l'argent à temps. Et là, c'est entre ces compagnies pétrolières et l'État de régler cela. Je pense que ça doit être pris en charge dans le cadre de la convention qui lie l'État du Niger, qui est garant des ressources naturelles, et ces compagnies pétrolières qui exploitent nos ressources. Et deuxième élément, c'est une hypothèse également, que les compagnies pétrolières se sont acquittées de leurs redevances à temps. Mais que l'État du Niger, compte tenu de certaines vicissitudes quotidiennes, par exemple la question sécuritaire qui engage beaucoup de ressources financières, l'État n'a pas pu mettre en temps réel les ressources-là. Mais je pense, quelle que soit la raison, puisque nous savons que la décentralisation, c'est un processus qui est inscrit dans le cadre de la Constitution de la République, dans les dispositions de 166, 164, 166, 167, qui fait obligation à l'État de faire la décentralisation concomitamment à la déconcentration. Je pense que pour mettre en œuvre cette politique, l'État doit faire un effort pour que vraiment créer les conditions idoines afin que les collectivités territoriales puissent de leurs droits en termes de redevances minières. Et cela en temps réel. en début d'année, elles doivent être en possession de ces redevances pour pouvoir réaliser des activités et surtout réhabiliter leur honneur et leur image vis-à-vis des populations que les gens choisissent. Je vous disais, les 10 ans passés, les résultats sont mitigés. Il y a une sorte de rupture entre les électeurs ou la population et les élus. Du coup, l'image aujourd'hui d'un élu, d'un maire, c'est une image qui est erronée. On a l'impression que le maire, c'est un voleur, ils sont là, ils ne travaillent pas pour nous, ils n'ont rien fait, ils ne vont rien faire. Donc ça erronait, ça écorchait l'image de l'autorité municipale. Et avec cette redevance, je pense qu'il y a possibilité de réhabiliter l'image du maire, l'image des élus locaux. Il y a également possibilité de rétablir cette confiance entre ces élus et la population.
Hadis Ahima, est-ce que, selon vous, les sommes rétrocédées sont suffisantes pour susciter le développement local?
À ce niveau, je peux dire, Maman Sani, au-delà des irrégularités des transferts des 15%, on constate que ces montants-là sont insuffisants. D'ailleurs, elles ne sont même pas totalement versées aux collectivités. Mais seulement, on peut dire que, comme les Hausa le disent, Dabab Garba a dit, si on arrive avec ce peu-là qu'on trouve, on arrive à investir, je peux dire que c'est un pas d'avance. Malgré l'insuffisance, ça permet de faire des réalisations. Pour une commune qui n'arrive pas à mobiliser vraiment des fonds et que maintenant, voilà, elle arrive à avoir quelque chose pour investir, je pense que c'est une bonne chose. Mais vraiment, ces sommes sont insuffisantes.
C'est ça. Monsieur Tuzuku, est-ce que les collectivités territoriales disposent des capacités techniques pour promouvoir le développement local avec de tels montants?
Je dirais oui, d'abord, parce que les collectivités territoriales, tout à l'heure, quand vous avez effectivement suivi le maire, il a bien dit les ressources techniques qui sont à sa disposition, et ça c'est la loi elle-même qui l'a dit, que nous pouvons concourir effectivement au service déconcentré de l'État pour réaliser nos activités. Et comment on appelle ça? Sani avait un peu relevé effectivement qu'il fallait, c'est vrai, signer des conventions. Mais je pense que pour le moment, nous sommes dans la dynamique quand même que les collectivités vont avoir leur propre personnel, puisqu'il y a déjà eu la loi sur le statut autonome des agents de collectivités territoriales, les décrets à vie, les jours. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a des instructions ministérielles, en tout cas, qui nous disent d'aller pour commencer à finaliser cela au cours de l'année 2022. Donc ça veut dire que la dynamique, elle est là pour permettre aux collectivités de disposer de leurs propres ressources. On nous a dit déjà donc d'identifier les cadres, en tout cas, qui sont nécessaires pour nos différentes collectivités afin déjà donc de pouvoir le recrutement conformément donc à ces nouveaux statuts. Voilà. Et je pense que ça, c'est déjà une avancée.
Monsieur Sallaou, même question pour vous. Est-ce que vous pensez que le transfert de 15% est efficace pour promouvoir le développement local des collectivités concernées?
Bon, efficace, c'est trop dire. Hein. Il faut reconnaître que l'État, en fait, cette redevance vient en appui. C'est juste en appui. La priorité des collectivités territoriales devait d'abord être la mobilisation de leurs ressources propres. Et je pense que son excellent le président de la République sortant, Mahmoud Issou, lors de l'une de ses rencontres avec les municipalités, l'avait martelé en 2016, en septembre 2016 exactement, lorsqu'il disait qu'il allait revoir la carte administrative du Niger. Et l'un des critères, c'était de voir les communes qui ne sont pas à même de mobiliser un certain seuil de leurs recettes et des impôts propres. Et là, c'était assez bien réfléchi. Donc, le combat qui sera le leur, c'est d'abord de repenser un peu la mobilisation des ressources propre de la municipalité. Et les recettes en termes de redevances viennent en appui. Et donc, c'est un plus, c'est une bouffée d'oxygène pour les municipalités, mais ces montants ne sauraient être suffisants à lui seul. Donc, les municipalités doivent redoubler davantage d'efforts, renouer le dialogue avec la population, rétablir la confiance avec la population, mais également que les élus aient le courage aussi d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, malheureusement. Parce qu'il faudrait souvent, pour faire l'omelette, on dit il faut casser les œufs. C'est vrai, c'est leur électorat, mais quand on dit à la personne de payer sa taxe municipale, elle ne paye pas, il y a des sanctions qui doivent suivre. Il faut faire recours même à la force. Moi, je pense que même si le contenant ne s'y prête pas, mais quand même, il est du devoir des municipalités souvent de faire usage des dispositions en la matière pour que la municipalité puisse rentrer dans ce droit. Donc, les défis, les challenges majeurs, c'est la mobilisation des ressources propres. Et l'autre défi majeur que vous avez évoqué également, c'est qu'on aille vers une autonomisation administrative totale en termes de personnel. Et là, les textes sont déjà pratiquement finalisés et il ne reste que le recrutement peut-être des personnels, sauf que vous connaissez le pays. Et quand on dit de recruter aussi, il y a un certain clientélisme politique qui s'invite dans le débat. Et nous prions vraiment que dans l'application de ces dispositions, que ce genre de pratiques clientélistes ne puissent pas engranger ou venir s'inviter dans le recrutement du personnel et que ce recrutement se passe vraiment en tenant compte des dispositions réglementaires.
Avant le tour de table sur certaines questions, j'aimerais une précision avec vous, monsieur le SG, par rapport à toujours la répartition de cette somme selon les communes. Par exemple, quand on prend la région de Zender, quelles sont les communes qui peuvent prétendre à avoir cette somme?
Par rapport à la répartition, effectivement, bon, la loi a dit que cette taxe, si vous voulez, donc la redevance, comme on a l'habitude de l'appeler, elle est pour la région.
La région.
Donc, je suis un des membres du comité de répartition. Nous avons d'ailleurs, depuis la première, avait mis en débat cette question. Nous nous sommes dit que non, ça doit concerner la région dans son intégralité. Ici, seulement l'indice qui pourrait juste différencier les gens, c'est effectivement ces critères de pondération. Donc, toujours, nous avons considéré que c'est une taxe régionale. Et au fait, c'est effectivement quelque chose qui est rétrocédé à la région dans son intégralité. Mais que, comme déjà, il y a des critères de pondération, là, déjà, ça nous montrait au pif que ceux qui sont directement impactés par les impacts environnementaux sont non seulement les premiers, vous constaterez qu'ils gagnent plus, logiquement, pour ceux qui, qui reçoivent d'une manière, si vous voulez, indirecte ou très minime, ces impacts-là. Je prends l'exemple, aujourd'hui, je sais que les ressources qui reçoivent dans la répartition, les zones de Tirmini, les zones de Olalewa, vous remontez jusqu'à Tesker, est beaucoup plus élevé que ceux qui reçoivent du Dogodogo, qui sont plus au sud.
Alors, je vais faire un tour de table avec cette question. Quelles sont les perspectives? Pensez-vous que l'État peut assurer l'apurement des arriérés, Hadiza?
Je peux dire que bien sûr que oui, l'État peut bel et bien assurer l'apurement des arriérés. Mais seulement la question est que est-ce que la volonté politique y est? C'est ça la question.
C'est ça. Maman Sani?
Je pense que la volonté politique de plus en plus, les plus hautes autorités quand même, on peut les concéder les bénéfices des doutes. La dynamique est engagée par les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République lui-même, laisse croire de toute évidence à une nouvelle forme de gouvernance. Et si on s'en tient à ces premières heures, je pense qu'il y a des belles espoirs que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et nous pensons que l'État, si la volonté politique est dans, l'État peut bel et bien mettre les collectivités territoriales dans les meilleures dispositions pour qu'elles puissent recevoir à temps réel de manière permanente aussi ces fonds-là.
Monsieur le SG, la question des arriérés, pensez-vous que l'État peut apurer les arriérés de ces redevances?
Je peux effectivement dire que l'espoir est là, parce que si je me rappelle encore de combats, comme je l'ai dit, que nous avons menés, si bien avec la société civile que nous autres élus. Je me rappelle des missions et même des communiqués à l'occasion de nos sessions, où en tout cas les conseillers régionaux et même municipaux à certains endroits ont fait des recommandations pour demander, libérer. Et aujourd'hui, à peu près pendant cinq bonnes années, nous réclamons, comme les syndicalistes disent, nous réclamons.
C'est ça.
Donc on demandait. On pense que, Dieu merci, ça a commencé à venir. Voilà, 2014 était venu juste en fin 2020.
2020, oui.
Voilà, et voilà encore presque à la même période, 2015 est venu en fin 2022. Donc nous sommes en train de prier pour que, comme l'a dit aussi, vraiment la volonté, nous pouvons enlever effectivement tout doute autour en tout cas de ça, parce que ça a bien démarré. Et nous pensons que ça allait continuer. Et mon souhait est que, effectivement, pour rattraper ces retards, je l'ai toujours dit, et permettre encore à nos collectivités de pouvoir beaucoup investir, pleinement et en tout cas accomplir leur mission, que ces arriérés-là puissent être vraiment épongés coup sur coup pas en tirant sur les années.
Justement, c'est ça la question, puisque voilà, maintenant on est en train de tirer sur les années. 2014 est venu en 2020, 2015 en 2021. Et donc, normalement, on doit doubler.
Effectivement, comme j'ai dit, quand on commençait à voir le bout du tunnel, comme dit l'autre, on pense que maintenant, notre solution ne serait plus de payer. Non. Maintenant, on va commencer à demander de doubler, d'accélérer. C'est ça aussi une dynamique dans la recherche d'un gain.
C'est ça.
Quand tu gagnes le bout, tu vas chercher maintenant un peu le corps.
Ouais.
Donc, je crois que nous allons continuer maintenant à plaider auprès, en tout cas, de l'État, à ce que ces arriérés puissent vraiment, dans la mesure du possible, être vraiment, leur apurement puisse être vraiment accéléré.
Je vais également poser la même question à tous les invités. Hadiza, je commence par vous. Quels sont les défis qui guettent les collectivités bénéficiaires à court, moyen et long terme?
Et à ce niveau, moi, en tout cas, je ne vois que deux défis. Le premier, c'est l'utilisation rationnelle de ces montants-là.
C'est ça.
Et le deuxième, c'est la régularité dans les paiements. De ces montants-là.
Maman Sani, les défis qui guettent à court, moyen et long terme ces collectivités bénéficiaires.
Je vais abonder dans le même sens que Madame Hadiza. Je pense que c'est d'abord que les décaissements soient réguliers et annuels et en temps réel. Et l'autre défi, c'est celui aussi de prévenir les pratiques malsaines auxquelles nous sommes confrontés dans ce pays-là. Et parce que quand il s'agit des questions des moyens, de l'argent là, très vite les langues se délirent et vous voyez la corruption, c'est malheureusement un facteur assez rampant. Le détournement des données publiques, c'est également un facteur assez rampant dans ce pays. Pour preuve, l'État a essayé très rapidement de retirer, juste un exemple parmi tant d'autres, l'État a retiré la distribution des vivres de la part des collectivités territoriales pour se les octroyer lui-même. Aujourd'hui, la distribution des vivres à prix modéré, c'est fait par les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets. Vous voyez, alors qu'avant, c'était l'apanage des collectivités territoriales. Donc, il y a souvent ces risques que cet argent également ne soit pas plongé ou plombé par ces pratiques malsaines. Mais nous osons espérer, avec les dispositifs de contrôle des civils qui est mis en place avec des instituts de la société civile et les organisations communautaires de base qui jouent le rôle d'éveil, que ces fonds seront utilisés à bon escient quand même. Mais également, il faudrait continuer à sensibiliser la population également, que c'est son devoir de suivre toutes les réalisations y afférentes qui sont réalisées dans le cadre de ces redevances-là. Parce qu'une chose est de lire, mais une autre chose également est d'accompagner les élus. Elles ont pour vocation, ces populations, d'interpeller en permanence les autorités municipales par rapport à ces fonds, qui de leur côté, les autorités municipales ont l'obligation de rendre compte. Nous avons parlé de reddition des comptes et de manière périodique au cours des sessions municipales, au cours des réunions avec les autorités, elles doivent également informer la population par rapport aux dépenses qui sont aux réalisations qui sont faites. Mais également que ces réalisations soient faites dans les règles de l'art, la question des passations de marché, les ouvrages doivent être réalisés conformément aux normes techniques. Et là également, c'est une responsabilité qui incombe aux services techniques de l'État. Si tous ces acteurs mettent en synergie leurs actions, je pense que le défi sera relevé.
D'accord. Monsieur le SG, la même question pour vous. Les défis qui guettent les collectivités bénéficiaires à court, moyen et long terme.
Les défis, vraiment, c'est un défi qui vient d'être lancé, effectivement, aux collectivités territoriales, puisque l'État, lui, il a lancé les défis. Et il va mesurer notre capacité, notre dynamisme, effectivement, à utiliser ces ressources. Et tout à l'heure, Wamassani avait effectivement rappelé un fait. L'État avait à un moment attribué aux communes, n'est-ce pas, donc la charge de s'occuper de ventes à prix modéré des vivres, et vous avez vu ce que ça a donné. Et moi, je pense que cette génération de conseillers doit se ressaisir avec cette ressource exceptionnelle qui vient d'arriver, qui peut bien permettre à ces collectivités, comme je l'avais dit tout à l'heure, de tirer sa population en investissant le peu, au moins qu'ils ont reçu de ces redevances-là, va créer une confiance entre
les populations,
les populations et les élus. Moi, je pense que le défi majeur, il est là. Et le maire doit le relever. Je veux dire, le conseil communal et même régional
bien sûr,
doivent le relever.
Parce qu'ils ont bénéficié.
Les relever, oui, les relever, à mon sens, ça
c'est vraiment d'investir. Et investir dans le domaine où la loi l'avoue, dans des investissements sûrs et durables. Il ne faut pas faire des investissements pour des investissements. Cette ressource, elle est bien cadrée. Les secteurs qui doivent recevoir donc ces ressources en termes d'investissement sont bien ciblés. Et ça, vous êtes avec moi que la plupart ou la totalité de nos collectivités aujourd'hui sont dans ces besoins. Ce sont les besoins en salle de classe, ce sont les besoins en eau, ce sont les besoins en centre de santé. Tout ça là, donc je crois que le peu, si on fait les petits gestes, quand même on montre que nous avons la volonté de relever ces défis. C'est parce que nous n'avons pas de ressources, c'est pour cela que nous n'avons pas osé. Et voilà, avec le peu que nous recevons, nous sommes en train d'oser. Je crois que ça peut nous donner, comme dit l'autre, un moyen de retourner avec force vers notre population, à les inviter et aussi vraiment à se désengager ou je pense à payer leurs impôts pour vraiment l'opérationnalisation, si vous voulez, complète de la maîtrise d'ouvrage.
Dernier tour de table également, donc comment mieux assurer le développement avec ces fonds rétrocédés?
En tout cas, pour mieux assurer le développement avec ces fonds, c'est vraiment d'investir dans le secteur social de base. Et c'est pour cette raison que notre organisation, le ROTAB, est en train d'initier le budget participatif à ces communes-là, parce que ça leur permettra vraiment de connaître les vrais besoins et par où commencer, et les vrais acteurs aussi.
Maman Sani, la même question, comment mieux assurer le développement avec ces fonds rétrocédés?
Moi, je pense qu'il faut une démarche inclusive. Et une démarche inclusive sous-entend associer toutes les composantes de la communauté et également essayer autant que peut se peut de rendre compte par rapport à l'usage que la municipalité en fait de ses ressources. Éviter les pratiques malsaines que nous avons mentionnées et je pense qu'avec cette bonne volonté politique affichée du plus haut sommet jusqu'à la base, moi je pense que les premiers pas des élus sont assez, les premiers pas sont assez reluisants, c'est encourageant. Moi je pense que si c'est, cette dynamique se poursuit, il y a vraiment des raisons d'espérer que les fonds mis à la disposition de nos collectivités vont impulser le développement à la base et renforcer la gouvernance locale.
Monsieur le sujet, comment mieux assurer le développement avec les fonds rétrocédés?
Moi, je pense qu'il est bien, comme je l'ai dit tantôt, c'est bien encadré. Nous demandons seulement aux uns ou aux autres le respect des textes, le respect qui cadre l'utilisation de ce fonds. Et en cela, je suis sûr que nous allons aboutir à l'objectif d'abord qui est assigné à nos collectivités territoriales, celui de booster donc le développement, de concourir donc au développement local, en satisfaisant en tout cas le volet subsidiaire. Je pense que c'est vraiment une bonne chose si les uns et les autres puissent jouer leur rôle vraiment dans le cadre de la partition. Parce que la décentralisation en elle-même, c'est cela. C'est que les collectivités sont créées à la base pour concourir en même temps que l'État à relever les défis du développement. Donc les défis macro sont au niveau gouvernemental et les défis micro doivent être relevés par ces collectivités. Il y a eu dernièrement l'évaluation de la décentralisation. Nous avons des collectivités effectivement qui étaient dans l'incapacité même de prendre en charge ces personnels. Et tout ça là, donc ça a amené quand même aussi bien aux législateurs qu'aux techniciens de revoir ce qui peut être revu.
Merci, monsieur le SG. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est Redevance minière, impact sur le développement local et perspective. Nous retenons que la redevance, c'est une somme concédée par l'État aux collectivités pour promouvoir leur développement. Ces sommes ne sont pas régulièrement versées aux communes qui elles-mêmes ne disposent pas de personnel assez suffisant et qualifié pour propulser le développement escompté. La répartition des fonds est réglementée et tient compte des critères démographiques, environnementaux, etc. Les raisons de l'irrégularité sont méconnues, mais ces sommes, si elles tombent régulièrement, peuvent redorer l'image des élus locaux qui sont souvent perçus par les populations comme des responsables inefficaces. Ces sommes ne sont pas assez suffisantes pour promouvoir le développement local. Les défis sont énormes, à commencer par la régularité des redevances, leur utilisation rationnelle, l'accompagnement de la population, la réédition de comptes, etc. Pour mieux assurer le développement avec les fonds rétrocédés, il faut prioriser les secteurs sociaux de base, la bonne gestion, le respect des textes qui cadrent son utilisation. Nous étions avec M. Chebou Tuzuku, secrétaire général du Conseil régional de Zender, Monsieur Sani Sallaw, spécialiste de la décentralisation à l'Institut universitaire des technologies de Zender, et Hadiza Hima, coordonnatrice régionale du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Zender. Merci et au revoir.